Seigneur, la journée s'est déroulée et nous avons tenu le rythme de notre journée. Nous avons fait, nous avons agi, nous avons parlé, nous avons tenu le rythme de notre journée. Et maintenant, Seigneur, tu nous ouvres cet espace ce soir. Oh, merci pour cet espace ce soir, Seigneur, que tu nous donnes. Merci pour ce temps que tu nous réserves, Seigneur. Ce temps que tu nous as réservé spécial, non pas que tu n'aies pas été avec nous tout le long de la journée, mais là, c'est un face-à-face avec toi, Seigneur. Et ce soir, je me fais le porte-parole de nous toutes, Seigneur, la porte-parole. Seigneur, ce soir, rien ne pourra apaiser, rien ne pourra satisfaire notre soif, si ce n'est toi. Rien ne pourra nous rassasier, Seigneur. Rien, si ce n'est toi, Seigneur. Ce soir, nous sommes venus parce que nous avons besoin de repos dans ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, tu es là pour nous et nous sommes là pour toi ce soir. C'est entre toi et nous ce soir et rien ne pourra nous apaiser. Rien ne pourra étancher notre soif. C'est toi que nous voulons ce soir. Et nous t'accueillons de tout notre être et vraiment nous, cet espace, nous le fermons à toute autre influence ce soir. Nous fermons les portes et les fenêtres de cet espace parce qu'il t'est réservé, il est sanctifié ce soir. Il est pour toi, Seigneur. Alors saisis-toi de ce moment, Père, par ton Esprit Saint, et dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Alléluia. Bonsoir. Ça va, mes amis et mes sœurs ? Vous avez vu le clip tout à l'heure ? On n'a pas commenté, on a continué directement, mais est-ce que ça vous a parlé? Hein? Donc, vous avez lu les paroles, hein, ce sont des paroles très simples, mais on a voulu vous passer ce clip, cette chorégraphie, parce que nous, on l'a trouvée très parlante concernant la résurrection d'une vie. Une femme qui est au départ en gros plan, vous voyez, vous vous souvenez, cette femme qui se débat, elle est tourmentée, elle est dans les tourments, elle est complètement désarticulée. Sa chorégraphie montre qu'elle est, son être tout entier est complètement désarticulé, démantelé. Et elle se débat, elle lutte. Je vais peut-être m'éloigner un peu. Elle lutte. Jusqu'à un moment, donc vous avez remarqué qu'elle a un bandeau sur les yeux. Vous m'entendez? Vous m'entendez, mais l'enregistrement, c'est bon. Donc, elle a un bandeau noir sur les yeux. Et donc, à un moment donné, elle se retourne, on la voit de face et elle baisse le bandeau. C'est très significatif aussi, ça, symbolique. C'est voir. Hein, nous avons vu cette étape-là, voir. Et quand elle voit, vous avez remarqué ce qui se passe? Quand elle voit, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait « Ouais, youpi !» Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'effondre. Elle était déjà dans les tourments, elle était déjà dans la souffrance, dans les épreuves. Elle se débattait. Et quand elle voit, que se passe-t-il? Elle s'effondre. Elle s'effondre parce que là, elle prend conscience de ce qui est devant elle, de ce qui est dans sa vie, du combat qu'elle va devoir mener. Et c'est là que le chant nous parle de Jésus-Christ. Et elle commence à rentrer dans ce combat spirituel à ce moment-là. Elle commence à rentrer dans ce combat spirituel. Et c'est un combat, effectivement, qui est... illustré par ces danseurs. Hein. Alors attention, ce sont des hommes, mais ça ne veut pas dire que les hommes en particulier sont nos bourreaux. D'ailleurs, vous remarquez qu'à un moment donné, un homme lui aussi, ces hommes-là ont eux également les yeux bandés de noir. Et, ça, et au fur et à mesure, les hommes aussi recouvre la vue, en fait. Les bandeaux tombent chez les hommes qui sont victimes des autres bourreaux aussi. Donc, c'est pas une question d'homme ou de femme. Hein. Voilà, je précise que le chant est chrétien, mais la chorégraphie n'a pas été faite par une chrétienne. Néanmoins, on a souhaité vous le montrer parce que ça, c'est quand même assez parlant. Et donc, il y a un combat spirituel qui est mené là, une solidarité qui se fait aussi entre ceux dont le bandeau tombe, qui viennent secourir ceux qui sont encore dans les fers, encore dans les chaînes. Et ça, c'est magnifique. Et ça nous parle de l'Église, ça nous parle du corps, ça nous parle de l'amour. Voilà, c'est ça aussi le combat spirituel. Alors, je vais vraiment cette fois-ci, on va continuer sur notre thème, et je vais vraiment cette fois-ci passer très vite sur le rappel habituel que je fais. En résumé, en quelques mots vraiment résumés, depuis le début, le tout début de ces rencontres que nous faisons, que nous avons, le Seigneur nous a conduits dans Ézéchiel, au chapitre 37, et en résumé, donc, voilà ce que nous avons vu de ce passage, compris de ce passage. Le Seigneur dit d'abord, viens, je te transporte. Ensuite, il dit, regarde et vois. Ensuite, il nous pose la question, crois-tu, maintenant que tu as vu, après ce que tu as vu, crois-tu? Et ensuite, c'était l'objet de notre dernière rencontre, notre dernier partage. Eh bien, si tu crois, alors confesse, alors prophétise si tu crois. Ce que tu crois, la promesse en laquelle tu crois et que je te fais, dit le Seigneur, prophétise-la, proclame-la, dis-la. Donc voilà, ça c'est le passage sur lequel nous étions arrêtés la dernière fois dans Ézéchiel, le verset 4 du chapitre 37. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Prophétiser, nous avons vu que c'est le moyen de prendre d'un point de vue spirituel. Prophétiser, c'est le moyen de prendre, spirituellement parlant, de prendre. Mais c'est là que commence le combat spirituel, justement. C'est là que commence le combat spirituel. Quand je commence à prophétiser, à prendre les choses qui m'appartiennent, les promesses, c'est là que commence le combat spirituel. Et c'est là que j'ai besoin d'autorité. C'est là que j'ai besoin de l'autorité spirituelle. Il me faut cette chose essentielle, l'autorité spirituelle. Nous avions posé les questions, pourquoi le Seigneur veut-il que j'exerce cette autorité? Pourquoi prophétiser? Pourquoi exercer l'autorité spirituelle? Eh bien parce que, tel qu'il est, il veut que je sois le Seigneur. Comme il fait, il veut que je fasse. Et il y a cette parole qui nous dit que nous avons été appelés, prédestinés à être semblables à lui, semblables à l'image de son Fils. Or le Fils n'est-il pas appelé le roi des rois? N'est-il pas appelé le Seigneur des seigneurs? Que fait un roi? Que fait le Seigneur des seigneurs? Que fait un roi des rois? Il règne. Et si nous sommes appelés à être semblables à lui, eh bien de la même façon que lui, nous régnons, nous allons régner, nous devons régner. Mais le règne, ça commence maintenant. Ce n'est pas seulement pour dans l'éternité. Ça commence maintenant, le règne. Maintenant. Être semblable à Dieu, donc, ça signifie aussi, entre autres choses, exercer l'autorité spirituelle. Je ne peux pas prétendre être semblable à Dieu si je néglige ce qui concerne l'autorité spirituelle dans ma vie chrétienne. Parce que c'est ce qui caractérise le Seigneur, l'autorité. Le Seigneur Jésus parlait avec autorité. La parole le dit, et nous-mêmes quand nous lisons, nous sommes frappés par l'autorité du Seigneur. Tel qu'il est, nous sommes. Donc l'autorité nous concerne. C'est notre destinée, l'autorité. Alors nous avions vu aussi, après le pourquoi, quoi prophétiser, nous avions parlé des paroles, la parole de Dieu, parole logos, parole rhéma, je ne reviens pas dessus, je passe vite. Il est toujours possible de consulter les fiches résumées, puis d'aller sur le site internet pour réécouter ce que nous avons partagé la dernière fois. Donc proclamer quoi? Eh bien la parole de Dieu. Les paroles logos qui sont les paroles générales, qui sont là dans la Bible dont nous disposons, et les paroles rhéma qui sont les paroles que Dieu nous révèle spécifiquement pour notre condition, notre circonstance, notre besoin particulier. Hein, ça passe par une révélation que nous recevons du Seigneur. Ensuite, nous avions posé la question, comment prophétiser ? Comment ? Et nous avions vu ensemble que, eh bien, prophétiser nous enseigne, ce passage nous enseigne que, dans certains cas, on ne se contente pas seulement de demander à Dieu la chose dont on a besoin, mais on la prend, comme ça a été dit, on prend autorité sur cette chose, on s'adresse directement au problème qui se dresse devant notre besoin. Jésus disait de parler à nos montagnes. Nous avions vu cela ensemble. Parler aux montagnes. Ézéchiel, le passage d'Ézéchiel nous dit comment nous devons nous adresser. L'Éternel dit, parle aux eaux desséchées et dis-leur, écoutez la parole de l'Éternel. Donc concrètement, j'ai une maladie. Je connais le nom de cette maladie. Je parle à la maladie. J'ai un problème dans mes pensées qui me trouble, qui m'empêche d'accéder à la paix, d'accéder à mon héritage, à ma promesse, de vivre pleinement ma vie. Je parle à mon âme. Je peux parler à mon corps, je peux parler à mon âme, comme le faisait le roi David. Je parle, je prends autorité et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ par ma bouche. J'ai une bouche, je l'utilise. J'ai reçu la parole, j'en fais usage à bon escient. Alléluia. La dernière fois, je vous avais dit que le Seigneur vraiment vous invitait, notamment celles qui ne l'avaient jamais fait, à rentrer dans cette dimension de la vie chrétienne, à rentrer dans cette dimension de l'autorité. Certaines d'entre vous l'ont déjà fait, connaissent cette dimension, la vivent, d'autres non. Et vraiment, le Seigneur invite les femmes de cette Église à rentrer dans cette dimension spirituelle, à se saisir de cette part d'autorité qu'elles ont reçue, franchir ce pas. Alors, l'avez-vous fait ? Est-ce qu'il y a des expériences ? Est-ce qu'il y a des témoignages ? De courts témoignages ? Si vous en avez de longs, pourriez-nous les donner ? On prévoirait le moment, lors de prochaines rencontres, pour que vous les donniez. Je crois que ce sera important à un moment donné d'avoir des témoignages. Alléluia, des témoignages de paroles prophétisées qui ont porté du fruit ou simplement de l'expérience de ce que c'est que de prendre autorité spirituellement. C'est merveilleux. Il faut commencer, vous savez, simplement par la foi. On commence avec simplicité, par la foi, avec une parole logos, et puis on se laisse porter. Le Saint-Esprit prend le relais. On se laisse porter, le Saint-Esprit prend le relais à un moment donné. Mais on commence généralement souvent par la foi, avec ce qu'on a. Mais en cours de chemin, en cours de route, vous allez remarquer que le Saint-Esprit donc vient à notre secours là, nous soulève de terre, prend le relais, quelque chose va changer, une ferveur va venir, une passion va venir, une conviction va venir, une force va venir, alors que vous allez continuer comme ça de cheminer dans la proclamation, dans cette prière. Et même parfois, on entend, notre ton change, notre voix change, notre intonation. On peut chanter, on peut danser, on peut être poussé à différentes choses. On est libre dans la présence du Seigneur, on est libre devant sa face. On laisse l'ouverture à cette liberté. On accueille cette liberté. Voilà, on se laisse vraiment conduire. Vous allez voir que c'est vraiment une expérience merveilleuse de se laisser conduire. Au fond, ce n'est pas la forme qui compte, bien sûr. Ce n'est pas la forme, que vous fassiez du bruit, beaucoup de bruit, ou pas beaucoup de bruit. Certaines prières sont très bruyantes, d'autres ne le sont pas. Bienvenue, mon petit bébé. D'autres ne le sont pas, mais au fond, qu'importe la forme, qu'importe le bruit, ce qui compte vraiment par-dessus tout, ce que je voudrais vous dire qui compte vraiment par-dessus tout, c'est de laisser au Saint-Esprit la liberté dans ces moments-là, de vous attendre à lui, de le laisser vraiment prendre ce moment, se saisir de ce moment et de vous. C'est ça qui compte, c'est la seule chose, l'unique chose qui compte. La parole, l'esprit, qui ne sont qu'un en réalité. Une image pour essayer de vous faire comprendre. Prenons un joueur de clairon, puisqu'il s'agit de proclamer, donc de claironner. Prenons un joueur de clairon. Vous avez le joueur, vous avez le clairon, le son du clairon. Le joueur, qui c'est ? Le joueur de clairon, c'est qui ? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. L'Esprit, c'est le Seigneur. Le clairon, c'est qui ? C'est nous. Toute image est imparfaite, hein ? Toute allégorie est imparfaite. Nous dirons que le clairon, c'est nous. Et le son du clairon, c'est cette proclamation, hein, c'est cette parole, cette promesse que je proclame, c'est cette victoire qui sort, ce son qui sort du clairon. Que se passe-t-il quand le joueur de clairon met le clairon à la bouche ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il souffle dedans. Il souffle. Et que fait le clairon ? Il se laisse remplir par le souffle et ça produit un son. Ça produit un son. Est-ce que le clairon dit au joueur de clairon « Non, en fait, je préfère que ce soit toi qui claironne. J'ose pas. Mais tu es fait pour ça. Moi, je souffle. Toi, tu claironnes. Laisse-toi faire. » Il nous suffit de nous abandonner à ce souffle. Il y a un souffle qui veut venir en nous. Et nous, nous ne pouvons pas dire au Seigneur « Mais fais-le, puisque le Seigneur, il fait ce qu'il a à faire, il souffle. Il veut que le son sorte de nous, mais c'est lui qui nous l'insuffle d'abord. Et ce souffle dont il est question, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Ce souffle qui passe dans le clairon, c'est l'esprit. Le joueur de clairon, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Le souffle, c'est l'esprit qui passe. Et nous, nous sommes animés par ce souffle, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut nous animer de cette façon-là. En fait, ça a l'air simple comme ça. C'est simple. Il s'agit de l'esprit, il s'agit bien là de l'esprit. Le mot hébreu qui veut dire esprit, c'est ruach. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ce mot hébreu, pour dire esprit, ruach, veut dire vent, souffle. Ça veut dire littéralement ça, vent, souffle. L'esprit est un vent, un souffle. C'est notre façon imparfaite de le traduire avec notre langage, parce qu'on ne peut pas définir l'esprit de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Lorsque j'ai préparé ce message, commencé à le préparer, je voulais continuer en fait sur l'autorité, mais je n'ai pas pu continuer sur l'autorité et en fait, le Seigneur m'a arrêté en me montrant qu'on ne pouvait pas continuer sur l'autorité sans parler du Saint-Esprit. Et les sœurs avec qui nous préparons ces rencontres me l'ont confirmé, elles aussi. Et donc, c'est d'un commun accord que nous avons décidé de suivre cette direction ce soir. Parce que oui, l'autorité est indispensable pour régner, mais il n'y a pas d'autorité sans le Saint-Esprit. Il n'y aura pas d'autorité sans le Saint-Esprit. Et ce soir, ce lieu est l'espace du Saint-Esprit. C'est vraiment un temps où il veut se révéler, où il veut prendre sa place dans nos vies. Il veut nous parler de sa place. Il veut prendre pied, il veut prendre place dans nos vies d'une façon nouvelle. Il veut faire une nouvelle avancée, le Saint-Esprit, dans nos vies, ce soir. Il veut faire une œuvre plus profonde dans nos vies, afin de pouvoir jouer pleinement son rôle en nous. Alléluia. Alors reprenons notre texte. Ézéchiel 37, au verset 5 cette fois. Au verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, donc c'est la suite immédiate, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Une remarque préliminaire. On a, pour la plupart d'entre nous, la Bible version Louis II, où il est inscrit un esprit. Mais en réalité, il faut comprendre l'esprit, ou le souffle. En réalité, je trouve que la traduction de Louis II est maladroite, parce qu'il s'agit bien là, non pas d'un esprit, mais de l'esprit de Dieu. Il s'agit là de l'esprit de Dieu. C'est clair, c'est incontestable. Dans presque toutes les autres traductions, on trouve l'esprit de Dieu ou le souffle, ou l'esprit tout court, avec un grand E. Donc c'est bien de lui qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc c'est par là que le Seigneur commence. Je vais faire entrer en vous l'esprit. Et ce n'est pas la première fois dans ce passage, dans notre passage d'Ézéchiel, ce n'est pas la première fois qu'il est question de l'esprit, puisque déjà, au tout début, Marie-Do, tu peux mettre la prochaine, s'il te plaît. Au tout début, alors ne lisez pas tout, mais regardez simplement les passages, tu peux tout mettre, s'il te plaît. Les passages en bleu, pour vous montrer, je ne sais pas si vous les voyez bien, les passages en bleu, vous montrer que l'esprit est partout dans le texte qui nous intéresse. Il est partout. Au tout début, la main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'amena par son esprit. L'esprit prend les choses en main dès le départ. Il est l'acteur principal. Il fait toute chose, toute chose. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Ensuite, il faut qu'Ézéchiel prophétise à l'adresse de l'esprit et dise à l'esprit, esprit vient des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. L'esprit est omniprésent dans ce passage, du début à la fin. Et c'est lui qui opère le plus important, puisque c'est lorsqu'il entre dans les ossements desséchés que ceux-ci reprennent vie. Donc l'esprit est vie. Il est toute chose. Il est vie. Que signifie pour nous « je mettrai en vous l'esprit » ? Qu'est-ce que cela signifie ? Ça nous parle de deux choses. D'abord, cela nous parle du fait que le Saint-Esprit entre en nous, il y a bien une première fois. Ça, c'est la nouvelle naissance. L'Esprit entre en nous. Je mettrai mon esprit en vous. Cela nous parle de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit, lui seul. Lui seul peut faire cela. La nouvelle naissance. Passage que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Jean 3, 5 et suivant. Lorsque Jean parle à Nicodème et qu'il explique ce qu'est la nouvelle naissance. En vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La nouvelle naissance est l'œuvre de l'esprit. Ça, c'est la première étape. Donc, lorsque un être vivant, un individu, reçoit en lui l'esprit de Dieu pour la première fois, il naît de nouveau. Qu'est-ce qu'il devient ? Il devient un enfant de Dieu, n'est-ce pas ? Il devient un enfant. L'enfant. L'enfant est dans la maison du Père. L'enfant est rattaché au Père par un lien de filiation. L'enfant a été pardonné. L'enfant est rentré dans le salut. Il a été réconcilié. Il il est héritier, il jouit des promesses de Dieu. L'enfant vit et s'épanouit dans la maison du Père. Cela symbolise le rétablissement de la relation avec Dieu que nous avons perdue en Éden. La nouvelle naissance, c'est le rétablissement de la relation avec Dieu, la relation perdue en Éden. Voilà le stade de l'enfant. Quand l'individu devient l'enfant de Dieu, enfant de Dieu, il retrouve la relation perdue avec le Seigneur. Il la retrouve. Mais l'enfant ne jouit pas de tout son héritage. Il ne jouit pas de tout. Pourquoi ? Parce qu'il est immature. Un enfant est immature. Un enfant ne comprend pas les vérités spirituelles des hommes faits et des femmes faites. Un enfant est au lait. Il est au lait. Il ne comprend pas tout. Il ne peut pas tout faire, loin de là. Il fait même peu de choses. Il est dans la maison du Père. Il a l'amour de Dieu qui lui est acquis éternellement. Mais il n'exerce pas de responsabilité importante. Peu de responsabilité, voire pas du tout, l'enfant. L'enfant n'exerce pas l'autorité spirituelle. L'enfant n'exerce pas l'autorité spirituelle. La parole nous parle de cela. Le passage suivant. Il y aura beaucoup de passages ce soir. Excusez-moi d'avance, mais en même temps, je ne vais pas m'excuser de vous donner la parole de Dieu. Elle est tellement plus parlante. C'est tellement clair, regardez. 1 Jean 2, 12 à 14. C'est l'apôtre Jean qui parle ici. Il dit dans cette lettre, « Je vous écris ceci, enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens. Vous avez vaincu le diable. » Et à nouveau, dans le passage, je saute un petit morceau. « Je vous le confirme, jeunes gens. Vous êtes forts. » Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Voyez cette progression, enfants, jeunes gens, pères. Il y a une croissance spirituelle. La Bible nous parle de croissance spirituelle. Nous naissons enfants, nous continuons jeunes gens et nous devenons pères ou mères. D'accord ? C'est la croissance. Je crois que beaucoup parmi nous, nous avons rencontré le Seigneur depuis quelque temps. Pas tout le monde, mais beaucoup parmi nous. Nous sommes nés de nouveau depuis quelques années. Nous en sommes au stade des jeunes gens. Nous ne sommes peut-être pas encore au stade des pères, des mères. En tout cas, je parle pour moi. Mais nous avançons, nous croissons et nous en sommes au stade des jeunes gens. Les jeunes gens. Donc, nous devrions porter le fruit des jeunes gens, n'est-ce pas ? Et quel est le fruit des jeunes gens ? Que dit la parole ? Quel est le fruit des jeunes gens ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quel est leur fruit ? Ils ont vaincu le diable. Il est dit, la parole de Dieu demeure en eux. Il est dit, ils sont forts. Ils sont forts. La parole de Dieu demeure en eux. De quoi ça nous parle ? De l'autorité. Les jeunes gens, contrairement aux enfants, eux, sont rentrés dans la dimension de l'autorité. Regardez les enfants. Vos péchés, quel est leur fruit ? Où en sont-ils ? La parole le dit. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Ils ne font rien, ils reçoivent. Leurs péchés leur sont pardonnés. Ils en sont au stade d'avoir reçu le salut. Voilà, ils ont reçu le salut, ils ont reçu le pardon. Ils ont réalisé que c'était possible d'être lavé, justifié par le sang de Jésus. C'est tout. On ne leur demande pas plus. Mais ensuite, les jeunes gens, eux, rentrent dans une nouvelle dimension, la dimension de l'autorité spirituelle. Il est bien question de la parole qui demeure en eux. Cette parole, logos ou rhéma, que nous avons là, en nous, à notre disposition, et que nous utilisons, l'épée de la parole. L'épée de la parole, dans nos combats. Alléluia. Oui. Vaincre le diable, c'est l'apanage des jeunes gens. L'enfant, lui, ne peut pas vaincre. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas équipé. L'enfant n'est pas équipé. Il lui manque quelque chose. Il est immature, il n'est pas équipé. Dans la vie d'enfant, il y a de très bonnes choses, bien sûr. Il y a de très très bonnes choses dans la vie d'un enfant. Mais à un moment donné, on plafonne. À un moment donné, on plafonne. Voilà, demander, recevoir, c'est bien, c'est même merveilleux. Qu'est-ce que c'est bon. Et ce n'est pas fini, heureusement, ce ne sera jamais fini. Mais à un moment donné, on plafonne. Il faut évoluer, il faut grandir. La nouvelle naissance, c'est une première étape. C'est une première étape. C'est seulement la porte d'entrée. Seulement la porte d'entrée. L'œuvre de l'esprit ne s'arrête pas là. Lorsque je suis enfant, on me met la cuillère dans la bouche pour que je mange. On me donne à boire, on me m'habille. Lorsque je grandis, je mange seul, je m'habille seul. Je peux même prendre soin de mes frères et sœurs, de la maison. Si je dois me défendre, je sais comment me défendre. Je peux me défendre. Je grandis. Je grandis. Le Saint-Esprit, lorsqu'il entre en nous et fait de nous des enfants, à ce premier stade, première étape de la nouvelle naissance, il ne s'arrête pas là. Une fois qu'il est en nous, vous croyez qu'il va rester statique, immobile et inactif, improductif ? Non. Le Saint-Esprit est illimité. Et son ambition pour nous est illimitée. Il va déployer tout ce qu'il est. Il va poursuivre son œuvre en nous. Il va poursuivre son œuvre. Il va continuer de se déployer en nous. Et on va passer à une étape suivante. Grandir, c'est vraiment naturel. Tous les enfants veulent grandir. Vous n'avez pas remarqué ? Ils veulent tous grandir. Ils veulent être grands. C'est instinctif de vouloir grandir. Qui voudrait rester un enfant toute sa vie ? Peut-être une fois qu'on est vraiment grand, on se dit finalement, c'est pas plus mal. Hein, parfois, on a envie de rester des enfants. Mais restons des enfants d'un certain point de vue. Restons des enfants simples. On sera toujours les enfants de Dieu. On sera toujours les enfants de quelqu'un. Ça, c'est très important. On sera toujours l'enfant de quelqu'un. À commencer par l'enfant de Dieu. Mais on a aussi des parents sur la terre. Et quand on avait 40 ans, 50 ans ou plus, on est encore l'enfant de quelqu'un. N'est-ce pas? Nous ne perdrons jamais cela. Et nous ne renions jamais cela. Sachons d'où nous venons et chérissons cela. Mais nous grandissons aussi. Et nous portons de nouveaux fruits. Est-ce que vous voulez grandir? Tu veux grandir? Noël, tu veux grandir? Suzanne, tu veux grandir? Moi aussi, je veux grandir. Hein, nous voulons grandir. Alléluia. Nous voulons quitter l'enfance. Nous voulons quitter l'enfance à un moment donné, en son temps. Il faut vivre son enfance entièrement, pleinement. Il faut la vivre. Il ne faut pas escamoter cette étape. C'est là qu'on se construit. C'est la base. Vivons-la pleinement jusqu'au bout, consommons notre enfance. Mais au moment marqué, quand il est temps, quittons l'enfance. C'est Saint-Esprit qui marque les temps. Voilà donc, que signifie « je mettrai en vous l'Esprit » ? Eh bien, cela nous parle de l'étape suivante aussi. Il entre en moi, le Saint-Esprit, il fait de moi l'enfant de Dieu, et ensuite, que fait-il encore pour moi ? Une fois qu'il est en moi, que fait-il encore pour moi, pour me faire croître et grandir ? Que fait-il encore ? Il nous parle. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous convainc. Quoi d'autre ? Il nous montre, oui, beaucoup de choses. Il dévoile, il fait tomber les écailles de nos yeux. Il nous console, c'est le consolateur, alléluia, oui, c'est le consolateur, le paraclète. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, le Saint-Esprit en nous ? Oui, il rend témoignage à notre esprit, il confirme la parole, il nous remplit. Quoi d'autre encore ? N'oubliez pas que nous parlons de l'autorité spirituelle. Donc, aujourd'hui, au stade où on en est là, on est encore dans l'enfance, là. On a dit que l'enfant n'exerce pas l'autorité spirituelle. Que fait le Saint-Esprit pour nous amener au stade de jeunes gens ? Les jeunes gens ont vaincu le malin. Les jeunes gens sont forts. Donc, les jeunes gens exercent l'autorité spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Comment ? Il nous donne de la force. Il nous pardonne, mais ça, c'est pour l'enfant. C'est déjà fait. Oui ? Mon bien-aimé, que fait-il pour nous ? Oui. Il brûle en nous. Oui. Tout ça est vrai. Ce dont je veux vous parler ici, c'est le revêtement spécial que le Saint-Esprit seul peut nous donner. L'équipement que l'enfant n'a pas nécessairement, ou dont il ne dispose pas au départ, forcément. Cet équipement est nécessaire pour entrer dans la dimension de l'autorité. Et en fait, il s'agit tout simplement ici, vous l'avez compris, de parler du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Et oui, le Saint-Esprit entre en nous, mais il nous baptise aussi. Et en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous baptise, c'est Jésus-Christ qui nous baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous baptise, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais... C'est un mystère pour nous, car c'est la même personne, en réalité. Que nous montre clairement la parole de Dieu ? Nous parlons d'autorité spirituelle. Que nous montre la parole de Dieu ? Que depuis que Jésus n'est plus sur la terre, suivez-moi bien, Jésus est né, il est resté sur la terre un certain nombre d'années, il a été crucifié, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, que s'est-il passé ? Il a laissé un certain nombre d'instructions, il est apparu plusieurs fois aux disciples, il a dit encore des choses, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? L'ascension. Il est monté, il a dit « Je vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu ». Le Seigneur Jésus est monté. Depuis ce jour où le Seigneur Jésus est monté au ciel, la parole de Dieu nous enseigne qu'aucune œuvre spirituelle, aucun ministère n'a été accompli sans qui ? L'Esprit de Dieu. Quand Christ était là, Jésus, corps de chair, être vivant parmi les vivants, physiquement palpable, faisait des miracles. C'est lui, il faisait des miracles. Il parlait, mais à un moment donné, Jésus est monté. Il est monté. Mais il ne nous a pas laissés seuls. L'œuvre devait se poursuivre sur la terre. L'œuvre de Christ n'était pas finie. Il a même dit qu'on ferait des choses plus grandes que lui. L'œuvre ne faisait que commencer. Il avait seulement préparé toute chose pour que son œuvre commence. Et cette œuvre-là, c'est l'Esprit qui l'accomplit aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. L'autorité spirituelle, la parole nous incite à penser que elle est vraiment, non seulement ça c'est certain, totalement dépendante du Saint-Esprit, c'est son ministère. Aujourd'hui, les temps que nous vivons, c'est le ministère du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth est monté. Son esprit maintenant opère toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes dans ces terres-là. Il faut bien en avoir conscience. Et donc, la parole nous montre qu'il n'y a pas d'autorité spirituelle, on va le voir, sans le secours, le revêtement, l'équipement de l'esprit. Il n'y a pas. Le Nouveau Testament le démontre, les actes des apôtres. Cet extraordinaire travail d'évangélisation. Cette œuvre extraordinaire d'évangélisation, l'Église primitive, elle a commencé quand ? Après la Pentecôte. Après la Pentecôte, on le sait bien. Et Jésus avait dit d'attendre ce revêtement-là, d'attendre qu'il se manifeste. Et ils ont attendu dans la chambre haute. C'est seulement après qu'ils ont commencé à œuvrer. Ils n'ont pas œuvré avant. Ils ont attendu d'être équipés d'abord pour commencer l'œuvre, pour commencer à exercer l'autorité pour le règne. Donc le Nouveau Testament, les actes des apôtres nous le demandent. Même chose pour Jésus lui-même d'ailleurs. Jésus lui-même a suivi ce processus. Jésus a été baptisé d'eau. Il a été baptisé aussi d'esprit. La colombe, l'esprit est descendu sur lui comme une colombe, nous dit la parole de Dieu. Et ensuite seulement, il a commencé à exercer son ministère, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il a fait des miracles avant ? Est-ce qu'il avait fait des miracles avant son baptême ? Non. Est-ce qu'il avait accompli des actes de puissance, prêché, etc. ? Non, il n'avait même pas prêché. Est-ce que quand il était enfant, il a accompli des choses, il a exercé l'autorité spirituelle, Jésus-Christ ? Non. Quand est-ce qu'il a commencé ? Seulement quand il a été baptisé d'eau, puis d'esprit. À partir de là, il a été revêtu, équipé, et il a commencé son œuvre. Donc, la parole nous enseigne cela. À l'origine de toute œuvre spirituelle, il y a le Saint-Esprit, et même le baptême dans le Saint-Esprit, qui est nécessaire. À l'origine de toute œuvre spirituelle. Et ce baptême dans le Saint-Esprit, cette visitation, cette présence de l'Esprit en nous, cet équipement, c'est le rétablissement de l'autorité que nous avions perdue en Éden. La nouvelle naissance, c'est le rétablissement de la relation que nous avions perdue avec le Seigneur en Éden. Mais le baptême dans le Saint-Esprit nous rétablit dans l'autorité que nous avions perdue, car Dieu avait donné l'autorité à l'homme et à la femme, et nous avons perdu cela. Mais Dieu nous rétablit dans les choses, par le Saint-Esprit. Il y a un lien, semble-t-il, quand on lit la parole, on a quand même très nettement l'impression qu'il y a un lien de suite directe entre la conversion, la nouvelle naissance et le revêtement de l'esprit. Prenons, et là je ne l'ai pas mis en diapo, mais est-ce que quelqu'un a sa Bible ? Est-ce que quelqu'un veut me lire, nous lire à toutes ? Acte 2, 38. Qui veut lire Acte 2.38, s'il vous plaît ? Allez, maman Chantal, on aime ta voix.
Je lis la parole de Dieu. Pierre leur répond : Changez vos vies. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ainsi que Dieu pardonnera vos péchés et vous donnera l'Esprit Saint. C'est ça ? Je continue ? Parole de vie. Sinon, je. Oui, c'est le 38. Oui. Sinon, je prends une autre version. Maman José. C'est où ça ? Voilà. Pierre leur dit : Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse. C'est juste là. Jusque-là ? Mais si, le car là, il continue. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen.
Merci, oui. Donc vous voyez que ça se suit dans le passage. Vous serez baptisés, le pardon des péchés, la repentance, le baptême d'eau, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, comme pour les disciples du Christ dans la chambre haute. Voilà. C'est pour nous, c'est une promesse. La parole de Dieu dit que c'est une promesse. Alléluia. C'est une promesse. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que je sais que le sujet, parfois, ce sujet-là, qui concerne le Saint-Esprit, et plus particulièrement le baptême dans le Saint-Esprit, est un sujet sensible. Je sais qu'il y a des objections, parfois aussi des craintes, un certain recul, une certaine distance, parfois aussi même, je le sais pour certains dans l'Église, beaucoup de souffrance par rapport à la question qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit, parce que certains ou certaines ne l'ont pas encore reçu, ou en tout cas ne l'ont pas manifesté, et en souffrent beaucoup. Donc c'est un sujet sensible. Et c'est parce que je le sais que je voudrais vous dire que ce soir, que vraiment aucune d'entre vous ne se sente jugée en aucune façon, ou voilà, que vraiment tout l'objet de mon propos, de ce partage, c'est vraiment de pas du tout de pointer du doigt quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Qu'aucune de vous ne se sente mal à l'aise ou jugée. C'est vraiment pas le propos, parce que le Seigneur, il ne juge personne. Le Seigneur nous aime, il nous donne. Le Seigneur reste ferme dans ses promesses. Il ne juge personne. Alléluia. Et nous voulons simplement recevoir de lui et puis être libérés si quelque chose bloque en nous, si quelque chose nous gêne, y voir peut-être plus clair. C'est aussi pour ça qu'on parle du Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Il est tellement discret, le Saint-Esprit. Il fait toutes choses, il opère toutes choses, mais quelle humilité, quelle discrétion. C'est sa nature d'être ainsi. Donc voilà, c'est vraiment en toute douceur que je vous parle aujourd'hui du Saint-Esprit. Mais que pourrais-je vous dire d'autre si ce n'est la parole? Que pourrais-je vous donner d'autre si ce n'est la parole de vérité? En toute douceur, mais c'est la parole de vérité. Alors mes sœurs, s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons grandement nos cœurs. Je disais qu'il y a parfois des objections, des raisonnements qui font frein, qui nous bloquent, qui nous retiennent. La première chose, c'est que parfois on pense que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas absolument nécessaire, que du moment qu'on est chrétien, qu'on a donné sa vie au Seigneur, qu'on est né de nouveau, on s'est fait baptiser d'eau, on suit le Seigneur, on marche avec lui, cela est suffisant et que il n'est pas nécessaire de rentrer dans cette dimension, dans cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ce serait donc, en quelque sorte, accessoire. Ce serait accessoire à la vie chrétienne. Alors, est-ce que c'est accessoire? Posons clairement la question. Est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit est accessoire? Encore une fois, que le Seigneur m'aide à avoir la délicatesse nécessaire. Mais je ne peux vous dire que la vérité de la parole. Est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit est accessoire? Vous savez, le sujet du baptême dans le Saint-Esprit nous amène surtout à porter nos regards sur la personne du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas aussi important que la personne du Saint-Esprit. Dans tout cela, ce qui importe, c'est la personne dont il s'agit, dont il est question, parce qu'il est bien question d'une personne. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Je ne crois pas qu'on puisse se permettre de négliger la personne du Saint-Esprit dans notre vie de croyant, de croyante. La parole nous oriente. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, versets 4 et suivants, Jésus dit ceci à ses disciples. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, entre la première phrase et la seconde, il y a un morceau que j'ai écarté. Donc, il leur recommanda de ne pas s'éloigner, d'attendre ce que le Père avait promis. Ensuite, plus loin, « Mais vous, dit Jésus, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Là, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui a institué le baptême dans le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui institue le baptême dans le Saint-Esprit. Il l'annonce, il recommande, c'est-à-dire qu'il commande à ses disciples, il leur demande instamment d'attendre, il est dit, la promesse, ce que le Père avait promis. Donc, c'est précieux car c'est la promesse du Père. C'est la promesse du Père. C'est ce qu'il déclare. C'est ce qu'il déclare. La personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Lorsqu'on lit dans l'évangile de Jean, le passage où Jésus-Christ parle pour la première fois à ses disciples du Saint-Esprit, on apprend beaucoup de choses dans ce passage. C'est au chapitre 16 de l'évangile de Jean. Voilà le contexte. Jésus sait qu'il va bientôt mourir. Il est proche de la mort. L'heure de sa mort approche. Que fait-il à ce moment-là? Il rassemble ses disciples autour de lui. C'est un moment solennel. Jésus a vécu ces temps vraiment très... c'est un unique, c'est un moment unique avec ses disciples. Ils sont attachés les uns aux autres. Il est attaché à ses disciples. Il sait qu'il va les quitter. Il sait que ce sera une rupture, un déchirement pour lui et pour eux. Il les rassemble autour de lui et il leur parle. Et vous savez, dans ces moments-là, quand vous savez que vous allez partir, que vous êtes le berger et que les brebis vont se retrouver là sans vous, sans le berger, c'est un moment très, très dur, hein, très profond en même temps, très intime. Donc il y a une intimité là entre Jésus et ses disciples. Et il va leur dire, lorsqu'on part et qu'on rassemble ses amis autour de soi, c'est là qu'on dit les choses les plus profondes, les plus intimes, celles qu'on a le plus à cœur. Et c'est là que Jésus va ouvrir son cœur et va parler. Et de quoi va-t-il parler à ses disciples? Il va leur parler du Saint-Esprit. Il va leur dire qu'il va les quitter. On va prendre le passage, ce sera encore mieux. Il va les quitter, donc il dit « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Et aucun de vous ne me demande, mais où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors là, quand on lit ça, vous vous rendez compte ce qu'il dit, Jésus? Il dit, il insiste solennellement parce qu'il dit cependant je vous dis la vérité. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une affirmation précieuse, profonde. Je vous dis la vérité. Le Seigneur insiste. Je vous dis la vérité. Écoutez bien ce que je vous dis. Il vous est avantageux que je m'en aille. Vous vous rendez compte? Jésus faisait tout pour les disciples. Il faisait tout. Il était leur guide, leur lumière. Il était leur puissance. Il guérissait les malades. Il leur disait tous les matins où il fallait qu'ils aillent, ce qu'il fallait qu'ils fassent. Il les enseignait, il leur expliquait les secrets cachés de la parole de Dieu. Il était tout pour eux. Tout. Et il leur dit, mais ce sera mieux qu'avec moi. Il vous est avantageux, ça veut dire, ce sera mieux. Est-ce qu'on peut le croire? Comment est-ce que ça peut être mieux que Jésus lui-même? Comment est-ce que ça peut être mieux que Jésus de Nazareth, là, juste à côté de vous, que vous pouvez toucher, à qui vous pouvez parler, vous pouvez le regarder dans les yeux, vous pouvez le serrer dans les bras. Il vous dit tout, il vous parle, il vous conduit, il vous guérit. Comment est-ce que ça peut être mieux? Il vous est avantageux, dit le Seigneur. Le Seigneur ne ment pas. C'est possible, en fait, que ce soit mieux. Oui, c'est possible, si Jésus le dit, c'est que c'est vrai. C'est simple. C'est simple. Et vous le savez, pourquoi c'est possible? Qu'est-ce qui rend cela possible? Comment cela peut-il être mieux avec le Saint-Esprit lorsque le Consolateur sera là? Le Consolateur, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. C'est possible parce que ce Jésus qui allait au Père, ce Jésus qui quittait les disciples, qui quittait la terre, c'était un Jésus justement de chair. Et ce Jésus de chair ne pouvait pas entrer en nous. Il ne pouvait pas entrer dans les disciples, ce Jésus de chair. Il ne le pouvait. Mais son esprit, lui, le peut. Son esprit le peut. Alléluia. Lisons Jean 16, 17 et Jean 14, 13 encore. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. L'autre passage, s'il te plaît. Quand le Consolateur sera venu un petit peu avant, c'est Jésus toujours qui parle, l'Esprit de vérité, il vous conduira, alléluia, dans toute la vérité, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Mais qu'est-ce que tu dis, Jésus? Mais encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Ça, on comprend, puisqu'il va mourir sur la croix. Mais encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous me verrez. Vous me verrez, moi, Jésus. Ça veut dire que le Consolateur, qui c'est Jésus. Ce Consolateur, cet Esprit Saint, ce n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le Seigneur dit, vous le connaissez. Vous le connaissez, il leur parle au présent parce que c'est moi. Vous me connaissez. Il demeure avec vous parce que je demeure avec vous là maintenant. Donc vous le connaissez déjà, vous ne l'avez jamais vu. Vous ne saviez même pas qu'il s'appelait le Saint-Esprit, mais il a toujours été en moi. Donc en fait, si vous me connaissez, vous me connaissez. Mais maintenant, il sera en vous. Donc ce n'est pas un étranger, le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Cette personne dont il s'agit, c'est le Seigneur, c'est notre Seigneur, c'est notre Jésus-Christ. C'est notre Seigneur, c'est son Esprit. Ce sont des mystères, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit, il vous est plus avantageux. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est Jésus, donc c'est la même chose, c'est pas mieux, c'est juste la même personne, Jésus-Christ, que nous aimons, notre Seigneur, et que nous allons continuer d'avoir avec nous parce que il ne nous laisse pas seuls. Oui, mais c'est mieux, dit Jésus. Pourquoi c'est mieux? C'est plus avantageux que de m'avoir à vos côtés. Donc, juste, vous avez compris? Vous me verrez. Vous me verrez au travers du Saint-Esprit. Vous me verrez spirituellement parce que je vous envoie le Saint-Esprit. Donc cette fois-ci, ce sera différent. Ce sera différent parce que, et mieux, parce que le Saint-Esprit sera en nous. Il sera en nous, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est cela qui fait dire à Jésus, plus avantageux. C'est plus avantageux. Parce que cette fois-ci, Dieu n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Tant que Dieu est à l'extérieur, il n'est pas à vous. Mais lorsqu'il est à l'intérieur, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a, est à vous. Devient à vous. C'est pour cela qu'il est plus avantageux que Jésus s'en aille et que le Consolateur vienne. Donc, le Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit sont des promesses du Père. Quelque chose qui tient particulièrement à cœur à Jésus-Christ, qu'il a annoncé d'avance, qu'il a accompli dans la chambre haute, qu'il continue d'accomplir aujourd'hui, qui est nécessaire pour exercer l'autorité spirituelle. Maintenant, parfois on peut aussi avoir des craintes, des peurs. On peut aussi se sentir intimidé par la personne du Saint-Esprit, quand bien même on a compris que c'est l'Esprit de Dieu. Intimidé non pas par Dieu, mais par les manifestations que Dieu peut faire dans nos vies. Les manifestations, il est question dans la parole de vent violent, de vent impétueux, même dans le chant que nous avons chanté, parfois les questions de feu, de choses comme ça, de bruit, de grandes eaux. Nous pouvons être intimidés par certaines manifestations surnaturelles qui pourraient survenir dans le cadre de l'action de l'Esprit. Et peut-être que ça peut aussi nous bloquer, nous freiner. Et nous, les femmes, on aime bien tout contrôler aussi. On n'aime pas l'idée de s'abandonner à quelque chose qui pourrait nous faire perdre le contrôle, ou nous faire dire des choses qu'on n'a pas prévu de dire, ou nous faire faire des choses qu'on n'a pas forcément envisagé de faire. Et ça, nous, on aime bien verrouiller tout et savoir clac, 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 clac. Ce sera comme ça, ici, maintenant, comme je l'ai prévu. J'ai tout organisé. On peut aussi être bloqué par rapport à cela. Mais attention, il n'y a pas de transe avec le Saint-Esprit, vous savez. Il n'y a pas de transe. Ça ne fait pas partie de la vie chrétienne, ça. Alors pour celles qui ne le savaient pas, je vous le dis, soyez totalement rassurés, il n'y aura pas de transe. La transe, c'est quoi? C'est un état, effectivement surnaturel, qui vous saisit et qui fait que vous perdez le contrôle de vous-même, de votre corps, de votre âme, de votre être, vous perdez même de votre esprit, vous perdez le contrôle. Il n'y a pas de cela avec le Saint-Esprit. Non, parce que la parole nous dit ceci, c'est que... Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, donc ne craignons pas ce genre de choses. Jamais Dieu ne nous forcera. C'est par conviction que nous agirons, animés, portés, et nous serons pleinement d'accord. Toujours. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. Et le Saint-Esprit, nous n'oublions pas, est comparé aussi à une colombe. Il est comparé à un doux murmure, un murmure léger. Élie n'a pas vu Dieu dans le vent violent, justement, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais c'était dans un doux murmure que Dieu était. Et je vous dirais que même s'il peut y avoir des manifestations fortes concernant le baptême dans le Saint-Esprit, n'ayons pas peur parce que Dieu s'adapte à nous. Il s'adapte à notre sensibilité. Moi, je suis plutôt quelqu'un de doux. Et quand j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, ça s'est fait vraiment en douceur. Ça n'a pas été fracassant. Il ne s'est rien passé de fracassant, c'était très calme et doux. Et le Seigneur s'adapte à nous, à chacune de nous, à notre sensibilité, à notre personnalité. Nous ne nous inquiétons pas de ces choses-là. Faisons-lui confiance. Si Jésus, nous le connaissons, on ne peut pas avoir peur de lui. On ne peut pas le craindre. Et à celles qui craindraient encore, peut-être... Je dirais que Dieu est amour. Le Saint-Esprit aussi est amour. Il manifeste cet amour. Et le baptême dans le Saint-Esprit est une expression d'amour de Dieu. Au-delà du fait qu'il nous donnera, on le verra la prochaine fois, une capacité nouvelle, une puissance nouvelle, une efficacité nouvelle pour accomplir certaines choses, combattre, remporter les victoires. Voilà. Mais en attendant, gardons à l'esprit qu'il est le consolateur, justement. C'est comme ça que Jésus l'appelle le paraclète. Paraclétos, ça veut dire celui qui assiste, celui qui aide, celui qui couvre. Voilà. C'est notre ami. C'est notre ami, le Saint-Esprit. Et il est vraiment, je dirais, on ne peut pas, les mots ne peuvent pas le définir, mais je crois qu'il est l'expression de la sensibilité la plus profonde de Dieu. Et de ce qu'il y a de plus profond dans le Seigneur, de plus caché en réalité. Donc honorons la personne du Saint-Esprit, ne craignons pas la personne du Saint-Esprit, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Nous avons besoin de lui. tout est opéré par lui, depuis le début, depuis toujours. Mais il a été révélé une fois que Jésus est monté. C'est là que le Seigneur a décidé de le révéler, parce qu'il a ouvert son ministère. Mais le Saint-Esprit avait toujours agi. Il est Dieu. Cette Trinité dont nous parlons, c'est un mystère incompréhensible à notre esprit, mais c'est pourtant réel. Et le Saint-Esprit, c'est tout simplement le Seigneur. Ce n'est pas un étranger. Alors, ouvrons nos cœurs à lui, à son œuvre. Il est dit de ne pas l'attrister, ça veut dire que le Saint-Esprit peut être attristé. Il peut être attristé, ne méprisons pas non plus les dons de l'Esprit, la parole nous le dit. Donc soyons attentifs à lui en nous ayant conscience qu'il est en nous maintenant. Il est à l'intérieur de nous maintenant. C'est notre ami collaborateur. Voilà. Et le Seigneur voudrait vraiment que cette dimension de l'Esprit s'affirme dans nos vies, parmi les femmes de cette Église. Parce que dans la suite des événements, le Seigneur a un plan pour cette Église, pour les femmes de cette Église. Et sans le Saint-Esprit, rien ne sera possible. Rien ne peut se faire sans lui. Nous devons lui donner la main d'association et prendre conscience de sa réalité dans nos vies. C'est encore lui qui le fera. Mais voilà, ce soir, il s'agissait de pointer cela. Alors, s'il y a des personnes pour qui ça fait des années qu'elles sont converties, qu'elles marchent dans la vie chrétienne, qu'elles viennent à l'Église et qu'elles ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit, que ces personnes-là ne vous découragent pas, ne vous découragez pas. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Tout est encore possible. Il n'est pas trop tard, jamais, avec le Seigneur. Donc, ne nous décourageons pas. Et que toute tristesse, toute culpabilité à ce sujet soit vraiment écartée des cœurs. Parce que le Saint-Esprit ne juge pas. Et il se donne, tout simplement. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est encore avoir un petit temps, un temps de prière, un temps de louange avec nos chantres préférés, Marie et Valérie, qui vont nous conduire. Et pendant ce temps, eh bien, si certains d'entre vous veulent la prière, que ce soit pour le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, un besoin quelconque dans ce domaine, un renouvellement aussi, vous pouvez venir, on va prier, ou pour tout autre besoin, comme à chaque fois. Voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse et je veux vraiment laisser toute la place à son esprit ce soir.